Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
La parole de Dieu apporte une véritable espérance dans notre monde tourmenté. C'est pourquoi nous vous exhortons à vous tourner vers le Seigneur Jésus, qui seul a le pouvoir de combler les cœurs.
Aujourd'hui, Yann et notre invité Alain continuent leur discussion sur le livre de Job.
Au cours de nos discussions sur le livre biblique de Job, nous avons d'abord parlé des souffrances de cet homme qui a un jour brutalement tout perdu. Et la dernière fois, nous avons considéré l'une des leçons principales de ce livre. Ainsi, nous avons appris que, contrairement à ce que l'on croyait à l'époque, la souffrance n'est pas forcément due à un châtiment divin pour punir une faute commise. Alain, quel est le sujet de notre discussion aujourd'hui?
Autour de nous, nous pouvons rencontrer des personnes qui passent par des moments aussi dramatiques que Job et souffrent aussi intensément que lui. Elles peuvent subir des pertes matérielles, être victimes de violences ou de maladies graves. D'autres sont endeuillées par le décès d'un proche. Comment pouvons-nous consoler ces personnes? Cela est-il réellement possible? Comment apporter un réconfort efficace? Le livre de Job peut nous être utile, car dans la conduite de ses amis, nous voyons à la fois un exemple de comment porter secours à ceux qui sont accablés et de ce qu'il ne faut pas dire ou faire.
Oui, nous avons déjà vu que la discussion entre Job et ses amis s'est avérée difficile. Chaque partie se dressait l'un contre l'autre, et Job s'est senti fortement déçu par ses amis, une situation qui a contribué à aggraver sa souffrance. Voilà quelque chose à éviter, car les disputes n'aident personne.
Oui, tout à fait, nous y reviendrons tout à l'heure. Mais revenons au début, car les amis de Job étaient initialement bien disposés envers lui. Lisons le livre de Job au chapitre 3, versets 11 à 13.
Or, trois amis de Job apprirent que tous ses malheurs venaient de fondre sur lui. Ils vinrent chacun de son pays. C'était Éliphaz de Théman, Bildad de Choua et Tsophar de Naama. En effet, ils décidèrent ensemble d'aller chez lui, témoigner leur sympathie et le consoler. Lorsqu'ils l'aperçurent de loin, ils ne le reconnurent pas et ils se mirent à pleurer à grand bruit. Ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Puis, ils restèrent là, assis par terre, à ses côtés 7 jours et 7 nuits. Aucun d'eux ne lui dit un mot, car ils voyaient combien sa souffrance était grande.
Nous voyons donc que les amis de Job avaient de bonnes intentions. Ils voulaient le consoler, lui faire du bien. Ils se sont donné la peine de se déplacer pour aller le voir. Ils se sont rendus disponibles pour lui et restèrent au moins une semaine auprès de lui. Toutes ces choses témoignent de leur amitié pour Job et de leur compassion pour lui. Ils ne sont pas restés indifférents à son égard, en cela ils ont bien agi. Car aller vers les personnes éprouvées, souvent seules, à porter de lourds fardeaux, est une attitude qui honore Dieu.
En arrivant chez Job, ses amis ont commencé par déchirer le vêtement, à pleurer et à se couvrir de poussière. Pouvez-vous expliquer pourquoi?
Ce sont sans doute des gestes qui exprimaient à l'époque le deuil. Chaque pays ou culture manifeste le deuil de façon différente, et il convient donc de respecter les us et coutumes du pays où l'on vit. Par leur attitude, les amis de Job ont montré qu'ils partageaient la souffrance et le deuil de leur ami, qu'ils désiraient le soutenir, l'aider à travers ces moments difficiles.
Et que pensez-vous du fait que tout le monde soit resté silencieux pendant 7 jours?
Cela était-il aussi la coutume? Peut-être. J'y vois 2 leçons importantes. D'abord, le simple fait d'être présent aux côtés de celui qui souffre fait du bien. Une attitude compatissante est aussi parlante que les paroles parfois. Ensuite, nous pouvons nous demander s'il est préférable de garder le silence plutôt que de dire des choses qui pourraient peiner ou susciter des disputes. Par le silence, nous exprimons notre incompréhension devant la souffrance de l'innocent. Nous prouvons qu'il n'existe pas de mots assez forts ou justes pour apporter une consolation totale et que nous partageons sa douleur.
Nous constatons donc que les amis de Job ont bien agi dans un premier temps. Mais que s'est-il passé par la suite pour que les choses tournent si mal?
Job a commencé à exprimer ses sentiments par rapport à ce qui lui était arrivé. Il ne pouvait plus retenir son désespoir, ses interrogations et sa colère, et ses propos révélaient la profondeur de sa douleur. Écoutons quelques versets. C'est donc Job qui parle. « Que périsse le jour où je fus enfanté et la nuit qui a dit « Un garçon est conçu ». Il poursuit en maudissant le jour de sa naissance. Il regrette d'avoir vu le jour et conclut ainsi
« Pourquoi donner la vie à l'homme qui ne voit aucune route à suivre parce que Dieu lui-même le cerne de tous côtés ? Car mes gémissements ont remplacé mon pain et mes cris de douleur déferlent comme l'eau. Tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Les maux que je craignais ont tous fondu sur moi. Je n'ai ni trêve, ni repos, ni relâche. Je suis sans cesse en proie à de nouveaux tourments. »
Étant donné ce que Job a vécu, nous pouvons comprendre ses sentiments, comprendre qu'il avait besoin de vider son cœur. Mais comment ses amis ont-ils cherché à le réconforter?
C'est là que les problèmes ont commencé. Les amis de Job ont vu dans ses plaintes un manque de foi. Ils lui en ont fait des reproches et ont tenté d'expliquer sa souffrance selon la soi-disant sagesse de l'époque qui affirmait que toute épreuve était la conséquence d'une faute commise par celui qui souffrait.
Oui, nous avons examiné cette pensée la dernière fois pour en conclure que le livre de Job montre très clairement qu'il ne s'applique pas à tous les cas. Une épreuve n'est pas toujours le résultat d'un péché.
Vous avez raison. Et nous avons vu aussi que plus Job protestait son innocence, plus ses amis s'acharnaient sur lui pour l'accuser. Ils le condamnaient pour un péché que, selon eux, il devait cacher.
Je peux comprendre que, dans l'état où il se trouvait, ses propos accusateurs ne pouvaient que l'accabler davantage.
C'est exact. Job s'est senti extrêmement seul, trahi, abandonné par ceux qu'il pensait être ses amis, et cela l'a plongé davantage dans le désespoir.
Que devons-nous donc retirer de cette évolution des choses?
Tout simplement, lorsque nous avons devant nous quelqu'un qui souffre profondément, il n'est pas convenable de fouiller dans sa vie à la recherche de fautes qu'il aurait pu commettre, ni de l'accuser de torts qui pourraient être à l'origine de son épreuve. Cette attitude ne peut pas apporter un soulagement à la personne, mais risquerait même d'aggraver sa souffrance. Toutefois, les amis de Job ont non seulement affirmé des choses qui n'étaient pas, mais ils ont aussi refusé d'écouter Job et de le comprendre. C'est pourquoi il a éprouvé une solitude plus grande encore face à son malheur.
Nous savons que Job souffrait parce qu'il était innocent, mais nous savons aussi que parfois une personne peut souffrir à cause de son inconduite. Dans le cas où cela est évident, peut-on l'expliquer à cette personne?
Souvent, ces personnes comprennent si leur épreuve est le résultat d'une faute. Je me souviens d'un entretien entre un conseiller et une personne atteinte du sida qui me fut relaté. L'homme malade parlait des gens qui le jugeaient, lui rappelant que s'il n'était pas tombé dans l'inconduite sexuelle, il n'en serait pas là aujourd'hui. Cet homme a déclaré quelque chose qui m'a marqué. « Je n'ai pas besoin d'être condamné, je me condamne moi-même. » Le fait d'accuser des personnes convaincues d'être coupables est vain. Et quelle que soit la raison derrière l'épreuve, nous devons apporter des paroles d'espérance. Je pense que nous en parlerons davantage la prochaine fois.
Pour conclure donc, je voudrais rappeler les deux leçons retenues du mauvais exemple des amis de Job. Tout d'abord, nous devons nous abstenir de dire aux personnes désespérées des paroles qui risqueraient d'aggraver leur peine. Ensuite, nous devons écouter ces personnes et chercher à comprendre leur situation avant de leur offrir une consolation. À présent, Jean-Yves va poursuivre ses méditations bibliques portant sur la parabole de la brebis perdue, selon l'évangile de Luc au chapitre 15, versets 4 à 7, qu'Hélène va nous lire.
Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il ait trouvé? Et quand il a trouvé, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. »
Comment réagiriez-vous si vous perdiez l'un des rares objets de valeur que vous possédiez, un bijou par exemple, ou bien en découvrant un matin que l'une des bêtes manque à vos troupeaux? Dans les deux cas, vous vous sentiriez vivement concerné et feriez tout pour retrouver l'objet ou l'animal perdu. Mais alors, que ressentiriez-vous si l'un ou l'une de vos enfants ne revenait pas d'une balade en forêt? Vous ne vivriez plus jusqu'à ce qu'il ou elle soit retrouvé. Le berger, dans la parabole racontée par Jésus, s'est montré tout aussi soucieux. Il n'a pas pensé, tant pis, une brebis perdue, ce n'est pas grave. Non, il a ardemment désiré la retrouver. Nous avons appris la dernière fois que cette brebis perdue représente chacun d'entre nous, car les hommes préfèrent suivre leurs propres pensées plutôt que d'écouter la voix de Dieu. Si aujourd'hui, vous avez gâché votre vie en prenant des décisions mal avisées, si vous rencontrez des ennuis ou des conflits à cause de votre égoïsme et méchanceté, ou si vous vous sentez perdu, comme cette brebis, seule et faible devant tous les dangers de la vie, alors il y a de l'espoir pour vous. Cette parabole nous montre en effet que même si la brebis s'est égarée par sa faute et qu'elle subit toutes les conséquences de sa bêtise, le berger n'est pas indifférent à sa situation. Ainsi, Jésus peut nous faire comprendre que lui, le berger, n'est pas non plus indifférent à notre état. Tout comme ce berger, Dieu s'intéresse à nous, personnellement, en tant qu'individu. Nous sommes importants à ses yeux, nous avons de la valeur. Sinon, pourquoi ferait-il tant d'efforts pour partir à notre recherche? Nous apprenons que dans la foule qui écoutait Jésus, alors qu'il racontait cette parabole, se trouvaient des personnes ayant commis des fautes très graves. Voilà pourquoi les gens considérés comme pieux et respectables les méprisaient et les rejetaient. Ils condamnaient ces pécheurs notoires et ne leur laissaient entrevoir aucun espoir d'un retour possible à Dieu. À travers la parabole de la brebis perdue, Jésus annonce à ces personnes considérées comme perdues que Dieu n'agit pas comme les hommes peuvent le faire, car Dieu prend nos situations à cœur et il s'occupe de chaque cas. Il n'est pas indifférent à nous, il ne méprise ni ne rejette, mais il agit avec compassion et miséricorde. La possibilité d'un nouveau départ existe. La brebis perdue possède donc un espoir. Cet espoir, Dieu l'offre à tous.
L'attitude de Jésus tranche avec celle des amis de Job, car Jésus est le consolateur et il apporte son secours à celui qui l'invoque.
Aujourd'hui et à jamais, Jésus est notre espérance. Vous pouvez placer votre confiance en lui. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.